France Culture.
Le journal est présenté par Olivier Vogel. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. C'est une photo qui attise la colère des manifestants opposés à la police de l'immigration dans le Minnesota, celle d'un petit garçon de 5 ans arrêté par l'ICE parce que son père serait un immigré clandestin. Ukraine, Russie et États-Unis discutent de paix depuis cet après-midi à Abu Dhabi, des discussions qui promettent d'être compliquées sur la question des territoires. Nous rejoindrons notre correspondant à Moscou, Sylvain Tronchet. Rapatrier les prisonniers djihadistes de l'État islamique dans leur pays d'origine en Europe. C'est la demande du Premier ministre irakien. Explication de notre correspondante dans la région, Marie-Pierre Véraud. En Espagne, un problème de soudure sur un rail serait à l'origine de la catastrophe ferroviaire qui a coûté la vie à 45 personnes dimanche dernier en Andalousie. C'est une hypothèse des enquêteurs. Le festival des 49-3 et des motions de censure autour du vote du budget à l'Assemblée nationale. Sébastien Lecornu a essuyé 2 motions ce matin. 2 autres sont au programme la semaine prochaine. A priori, sans risque pour le Premier ministre, nous dira Adrien Toffolet. Et puis le dossier de ce journal sera consacré à la lecture. Comment donner le virus aux plus jeunes? Le concours Les Petits Champions de la Lecture s'y emploie. Nous irons au château de Versailles où une présélection à haute voix s'est tenue hier soir. C'est un petit garçon coiffé d'un bonnet bleu aux oreilles de lapin. À côté de lui, une silhouette vêtue de noir qui le retient en le tenant par son sac d'école. Cet enfant apeuré a 5 ans à peine. Il a été arrêté à Minneapolis par les policiers de l'ICE, la police américaine de l'immigration. Son père est présenté comme un immigré clandestin. La photo a provoqué une onde de choc, notamment dans le Minnesota, où les manifestations ne faiblissent pas depuis la mort de René Goude, cette militante de 37 ans abattue le 7 janvier par les policiers de l'ICE. Les précisions de notre envoyé spécial à Minneapolis, Olivier Poujade.
Le petit Liam Ramos était en train de revenir de la maternelle lorsqu'une patrouille de l'ICE aurait profité de son trajet pour se servir de lui comme d'un appât. Dans un premier temps pour interpeller son père, puis ensuite pour vérifier si un autre adulte se trouvait à l'intérieur du domicile. Selon les déclarations du directeur de l'école, un agent de l'immigration a accompagné Liam devant chez lui, lui demandant de frapper à la porte. Cartable sur le dos, coiffé d'un bonnet bleu, plusieurs photos de Liam circulent aujourd'hui, notamment l'une où l'enfant de 5 ans est retenu par la poignée de son sac à dos. Par un agent de l'ICE, les responsables du district scolaire affirment que Liam est le 4e élève scolarisé dans cet établissement, ciblé ces derniers jours par les agents de l'immigration. Nos enfants ne devraient pas être effrayés à l'idée de venir à l'école, observe aujourd'hui dans un communiqué l'équipe de direction de l'école de Columbia Heights. Leurs parents ne devraient pas avoir peur de les déposer devant notre établissement. L'histoire de Liam ne fait qu'ajouter de la colère au sentiment des population de Minneapolis, beaucoup de gens sidérés ici nous affirment qu'ils ne reconnaissent plus leur pays.
Et de son côté, le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Türk, a exprimé sa sidération face à ce qu'il a qualifié de mauvais traitement désormais quotidien envers les migrants aux États-Unis, pressant Washington de cesser les pratiques qui déchirent les familles. C'est la première fois depuis l'invasion russe il y a près de 4 ans que Moscou et Kiev négocient directement sur un plan de paix américain. Ça se passe à Abu Dhabi et aux Émirats Arabes Unis. Les pourparlers ont démarré peu après 16 heures cet après-midi. Le président ukrainien Zelensky a rappelé que la question territoriale reste le principal point non résolu. Cette question est au centre des pourparlers d'Abu Dhabi. Sylvain Tronchet, bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Un correspondant de France Culture en direct de Moscou. Des discussions qui s'annoncent plus que compliquées car la Russie exige toujours de Kiev le retrait de ses troupes de l'est de l'Ukraine.
Oui, la question qui se pose hein, alors que ces discussions ont débuté il y a une grosse heure maintenant et alors qu'elles pourraient se poursuivre ce week-end également, c'est ce qui a été dit notamment du côté du Kremlin, c'est est-ce que la Russie est prête à sortir ne serait-ce qu'un peu de ses exigences maximalistes pour aboutir à un accord de paix. La question du Donbass, vous l'avez dit, hein, donc sera centrale. Les deux camps l'ont affirmé avant même le début de ces discussions qui se déroulent dans un format inédit, tripartite, sous l'égide des États-Unis, dans une composition inédite aussi. La délégation russe est 100% militaire, menée par le chef du GRU, le renseignement militaire, ce qui signifie peut-être que le Kremlin est prêt à des discussions techniques, concrètes, mais la Russie veut-elle vraiment la paix alors que son armée multiplie les raids sur l'Ukraine, les attaques sur la ligne de front? Moscou a parfois, dans le passé, montré qu'il pouvait ménager Donald Trump, semblait approuver les initiatives du président américain et à l'arrivée ne rien négocier, d'autant que les grands absents de cette séquence sont les Européens, écartés des discussions d'Abu Dhabi, ce qui n'est évidemment pas pour déplaire aux Russes.
Sylvain Tronchet, correspondant de France Culture en direct de Moscou. Vers un rapatriement des prisonniers djihadistes de l'État islamique dans leurs pays européens, c'est en tout cas ce qu'a demandé le Premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani à Emmanuel Macron, qu'il a eu au téléphone. Des Européens, Français notamment, figurent parmi ces prisonniers qui ont été transférés depuis des camps de prisonniers en Syrie vers l'Irak dans le cadre d'une opération militaire américaine. Les précision de notre correspondante dans la région, Marie-Pierre Véraud.
On ignore combien de combattants de l'État islamique ont réussi à s'échapper. Selon Damas, il serait 120 pour l'une des prisons, celle de Shadadi, dans la province de Hasakeh, mais 80 auraient été rattrapés. Il y en aurait donc plusieurs dizaines en liberté. Les récupérer est une priorité des forces de Damas et bien sûr priorité pour les Occidentaux, mais aussi pour les djihadistes de l'EI qui ont reconstitué des cellules dans le désert syrien, notamment dans la région de Deir ez-Zor. Le sort de ces prisonniers est d'ailleurs largement évoqué sur les chaînes de communication djihadistes. Mais on ignore leur degré de radicalité ainsi que leur capacité réelle de combat. Plusieurs spécialistes tiennent donc à relativiser le risque. Ces prisons contenaient environ 9000 combattants de l'EI, mais il y a aussi les camps, notamment ceux de Halol et Roj, où avaient été rassemblés les familles, les femmes et enfants de djihadistes. Ils sont 23 000 dans le camp de Halol, majoritairement des Syriens et des Irakiens, mais aussi 6 000 étrangers, dont des Européens. Les États-Unis, inquiets du vide sécuritaire, ont commencé à évacuer des djihadistes vers l'Irak, 150 dans un premier convoi. Ils prévoient d'en exfiltrer 7000 au total. Mais l'Irak souhaite désormais que les Européens rapatrient leurs ressortissants pour les juger sur leur sol. C'est la demande qu'a faite le Premier ministre irakien à Emmanuel Macron cet après-midi. La France qui a jusqu'à aujourd'hui rechigné à reprendre ses combattants.
En Tunisie, deux célèbres chroniqueurs, Mourad Zeghidi et Boren Psayes, ont été condamnés ce jeudi à 3 ans et demi de prison pour blanchiment d'argent et évasion fiscale. C'est ce qu'ont annoncé des médias locaux et la sœur de l'un d'entre eux, deux hommes déjà en détention depuis presque 2 ans pour des déclarations considérées comme critiques du pouvoir du président Kais Saied. En Espagne, après la catastrophe ferroviaire qui a provoqué la mort de 45 personnes dimanche dernier en Andalousie, les enquêteurs travaillent sur l'hypothèse de la rupture d'un rail, une rupture au niveau d'une soudure qui se serait produite juste avant la catastrophe, une collision entre deux trains à plus de 200 km/h. Les enquêteurs précisent qu'il ne s'agit que d'une hypothèse de travail, laquelle doit être corroborée par des calculs et des analyses. C'est la valse des 49-3 et des motions de censure à l'Assemblée nationale ce matin. Sébastien Lecornu, qui a finalement dégainé ses 49-3 pour faire passer le budget, a esquivé sans surprise les deux motions de la gauche hors PS et de l'extrême droite. Et après l'adoption de la partie recettes, le Premier ministre a promis de récidiver de la même manière pour la partie dépenses. Conséquence, la France insoumise et le RN ont déposé cet après-midi deux nouvelles motions de censure. Elle devrait être examinée mardi pour être logiquement rejetée de la même manière. A priori, sans aucun suspense, Adrien Toffolet, même si les auteurs des motions ne désespèrent pas de convaincre un peu plus largement.
Ils ne veulent pas encore s'avouer vaincus, les insoumis, en sortant de l'hémicycle. Éric Coquerel, notamment, loin d'être déçu par les 19 voix manquantes à l'adoption de la première motion de la gauche ce matin.
L'écart s'est considérablement réduit par rapport à la précédente, puisqu'on était à plus de 30 voix qui manquaient.
Un écart qui peut, selon le député LFI de Seine-Saint-Denis, se réduire avec un peu de méthode Coué et en allant convaincre, par exemple, d'autres socialistes entraînés par les 5 qui ont déjà voté la censure.
J'ai entendu d'ailleurs tout à l'heure mon collègue socialiste avoir l'air très sûr de lui sur le fait qu'il n'y aura pas d'autres déperditions, je serais lui, je serais moins certain, parce que je pense qu'il y a des socialistes qui jusqu'à maintenant avaient voté certaines motions de censure, qu'ils n'ont pas voté cette fois-ci. Bon, on va aller les voir. Vous savez, les batailles qu'on perd, c'est celles qu'on mène pas.
Mardi, c'est cette fois sur la partie dépenses du budget que Sébastien Lecornu jouera sa survie. Texte qui n'a été communiqué que ce matin aux députés qui ont désormais un long week-end pour l'éplucher et décider, comme l'a annoncé tout à l'heure l'ancien Premier ministre, aujourd'hui député Les Républicains, Michel Barnier, de censurer s'il les découvre de mauvaises surprises. C'est une possibilité, estime sans trop y croire non plus le député Rassemblement National de la Somme, Jean-Philippe Tanguy.
Peut-être que Les Républicains vont découvrir, comme le dit M. Barnier, l'ampleur des dépenses qui continuent à augmenter en volume, contrairement à ce que dit M. Lecornu. Donc peut-être que Les Républicains vont découvrir ce qu'ils viennent de ne pas censurer. Et j'ai pas beaucoup d'illusions sur le courage des Républicains, mais enfin écoutez, on ne sait jamais.
Des discours qui risquent de trouver peu d'écho auprès des nombreux députés qui entament cette nouvelle année entre résignation et volonté de tourner la page budgétaire pour ouvrir celle des municipales.
Adrien Toffolet. C'est une vidéo qui est devenue virale. On y voit un homme matraqué de la tête aux jambes par trois policiers dans une rue parisienne. L'IGPN, la police des polices, a été saisie d'une enquête. Florence Sturm.
La vidéo, relayée sur un compte Instagram dénommé « Cerveau non disponible », montre trois policiers casqués, boucliers et matraques en main, leur véhicule de fonction, gyrophare activé, stationné au milieu de la rue. La nuit est déjà tombée, les images filmées depuis une fenêtre en hauteur. Les policiers entourent un homme qu'ils conduisent de force vers leur voiture, le plaquent, dos contre le capot. Un premier fonctionnaire lui assène un coup de matraque au niveau du crâne, trois autres sur les jambes. Un autre policier va ensuite le tirer par les cheveux, le frapper au visage avant de lui intimer l'ordre de partir. On entend distinctement « dégage, connard » et « kebab sur patte ». L'homme s'enfuit en courant. La section de protection des libertés fondamentales du parquet de Paris a donc saisi l'IGPN d'une enquête. Il va s'agir dans un premier temps d'identifier les fonctionnaires concernés, ce qui ne devrait pas être très difficile. Ils semblent a priori en tenue d'intervention et la vidéo indique que les faits se sont déroulés le 19 janvier, rue Bichat, dans le 10e arrondissement parisien. Mais à ce stade, la préfecture de police ne livre aucune information. L'IGPN devra ensuite déterminer la provenance des images, entendre d'éventuels témoins et préciser le contexte dans lequel les faits se sont déroulés, avec déjà cette question sous-jacente qui pointe à la lecture de la vidéo. Quelle infraction ou quel délit avait pu commettre l'homme en question et s'il en avait commis un, pourquoi les policiers ne l'ont-ils pas interpellé et emmené avec eux plutôt que de lui ordonner de partir ?
Des images qui interviennent quelques jours à peine après la mort d'El Hassen Diarra, un homme de 35 ans d'origine mauritanienne au commissariat du 20e arrondissement de Paris. À ce sujet, une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris. Un juge d'instruction a été saisi. 3 ans de prison ferme requis à l'encontre de Christophe Ruggia, réquisition du parquet général cet après-midi dans le procès en appel à Paris du cinéaste pour agression sexuelle sur l'actrice Adèle Haenel. Aujourd'hui âgée de 61 ans, Christophe Ruggia est poursuivi pour agression sexuelle de 2001 à 2004 sur la comédienne dans la foulée de l'éprouvant tournage du film d'auteur Les Diables, où le réalisateur de 24 ans, son aîné, avait offert à la jeune adolescente son premier rôle de cinéma. Les premiers chiffres du PAC Nouveau Départ lancé en décembre 2023, il doit permettre aux personnes, majoritairement des femmes, victimes de violences conjugales, de partir de leur domicile et pour cela, une aide financière est prévue, ainsi qu'une prise en charge par un réseau d'associations. Selon la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, 2000 femmes ont bénéficié du dispositif depuis son lancement. Servane de Pastre.
Dans les 12 départements où le PAC Nouveau Départ est déployé, c'est une réussite, se félicite la ministre déléguée en charge de l'égalité femmes-hommes, Aurore Berger.
On a réussi à aller détecter des femmes qui ne se seraient pas spontanément rendues, soit dans un commissariat, une gendarmerie, une association, une CAP, parce qu'on a formé massivement.
En tout, ce sont 2000 femmes qui ont été accompagnées ces 2 dernières années, grâce à une collaboration entre associations et organismes de l'État, comme la CAF ou encore France Travail. Toujours à l'état de test, la ministre voudrait élargir le dispositif.
Moi, je veux, dès le mois de mars, pouvoir annoncer au moins 10 départements supplémentaires, puisque l'objectif, pour moi, c'est évidemment une généralisation.
L'échéance n'est pas fixée. Aurore Berger dit aussi vouloir maintenir, voire augmenter les soutiens aux associations. Mais tout dépendra, dit-elle, du budget qui sera voté dans les prochains jours. Les associations, de leur côté, se félicitent de ce PAC, même s'il pourrait être amélioré. Car si une aide est proposée aux victimes, autour de 1 000 euros en moyenne, versée en une fois, ce n'est parfois pas assez, explique Ophélie Goutte. Elle est assistante sociale à la Maison des Femmes de Saint-Denis.
Ça peut être un coup de main au début, mais si la femme en fait était déjà dans une situation d'isolement, d'exclusion, où elle ne travaillait pas et qu'elle a des enfants à charge, ça peut être aussi compliqué.
Le risque, c'est qu'elle retourne chez son conjoint violent. Les associations pointent par ailleurs le manque de places d'hébergement et la méconnaissance de beaucoup de femmes de ce dispositif.
Vers une préférence européenne pour les pompes à chaleur, le gouvernement va réserver certaines aides au matériel fabriqué dans l'UE, modèle qualifié de performant et de bonne qualité. Ces aides attribuées par le mécanisme des certificats d'économie d'énergie seront réorientées à partir du mois de septembre. Par ailleurs, concernant MaPrimeRénov', le gouvernement a indiqué cet après-midi que le guichet rouvrira immédiatement après le vote du budget. Comment donner envie aux plus jeunes de faire le grand plongeon dans les livres? C'est un défi qu'entend relever le concours Les Petits Champions de la Lecture, 14e édition cette année. C'est un jeu de lecture à haute voix. La finale aura lieu le 24 juin au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Mais en attendant, les 5000 établissements scolaires participants doivent dénicher leur champion parmi les 200 000 élèves inscrits. Et jusqu'à ce soir, dans le cadre des Nuits de la Lecture, ce sont donc les finales écoles qui se disputent. Les écoliers de CM1 et CM2 âgés de 8 à 11 ans passent devant un jury. À chaque fois, deux enfants sont qualifiés par école pour la prochaine étape. Marion Ferrer s'est glissée dans le public hier soir pendant l'une de ses sélections qui s'est tenue au château de Versailles.
Et l'exercice n'est pas si simple. Chaque enfant présélectionné par son école doit passer devant un jury de 4 personnes, mais aussi devant plus d'une trentaine d'élèves rassemblés pour l'occasion dans l'imposante salle Marengo du château de Versailles pour lire quelques pages du livre de leur choix.
Cornebidouille contre Cornebidouille.
Billy Elliot.
J'ai lu Mamie Gangster de David Williams. Il y avait de l'action, il y avait de la rigolade, il y avait un peu tout ce que j'aimais.
Lire à voix haute tout en respectant la ponctuation et les intonations.
Être accusé de transpirer, vous faisiez transpirer encore plus. Si tu sues, tu vas courir dehors. Non, répliqua un Ben désormais très transpirant. Ben, ne me mens pas, je suis ta mère.
Prestation réussie haut la main malgré le stress pour Inès, Vadim, Lina et 5 de leurs camarades, tous élèves de CM1, CM2 à l'école primaire championnée 113 dans le 18e arrondissement de Paris.
Déjà, avec le micro, c'était compliqué.
Au début, c'est stressant, mais quand tu passes, après, t'es au micro, ça va.
Pour y parvenir, ils se sont entraînés plusieurs semaines avec leurs enseignantes, dont Pauline Diaz.
Des petits temps comme ça, tous les jours un passage, que ce soit avant, après la récré. Des ateliers.
Un concours qui a permis de motiver les élèves à délaisser les écrans. Blandine Chollet, la directrice de l'établissement, a pu constater leur évolution.
Il y en a qui reviennent de très loin, des enfants qui étaient non lecteurs fin CE1, début CE2, et qui ont été sélectionnés là. Ça a été un travail effectivement de longue haleine, mais aussi un travail d'équipe à l'école.
La lecture plaisir, justement, c'est l'objectif de ce jeu. Raphaël Ross est la secrétaire générale des Petits Champions de la Lecture.
Et le fait qu'ils choisissent eux-mêmes le texte qu'ils vont lire en classe, sur lequel ils vont s'entraîner avec leurs camarades et avec leurs enseignants. C'est un point clé en fait, du dispositif. Ce n'est pas une lecture studieuse, ce n'est pas une lecture si académique que cela. Ils vont pouvoir vraiment s'exprimer avec leur choix.
En France, un jeune lit en moyenne 19 minutes par jour pour son plaisir. En revanche, il passe 10 fois plus de temps sur les écrans.
Marion Ferrer. La Maison de la Radio et de la Musique, qui abrite notamment à Paris votre radio préférée, va vibrer tout le week-end au son de l'Hyper Weekend Festival. Série de concerts dès ce soir et jusqu'à dimanche dans tous les recoins de la Maison Ronde, avec entre autres Camille Youssoufa, Charlotte Cardin ou Yaël Naïm. Le programme complet est à retrouver sur Hyper Weekend Festival. Les prévisions météo, vous l'aurez pourrait constater, le temps est plutôt agité sur la majeure partie des régions. Pluie et vent puissants, en particulier sur la façade atlantique, où les rafales peuvent atteindre les 130 km/h. Tout cela devrait se calmer dans la soirée. Les précipitations se décaleront vers l'est, de la pluie et de la neige sur les massifs. Demain, le régime restera plutôt pluvieux, en particulier sur le sud-est. Côté température, des gelées sont à prévoir dans le nord-est. Les maximales iront de 6 degrés à l'est à 13 sur la côte d'Azur. C'est la fin de ce journal. Alison Vicrobeck était à la réalisation, Anthony Thomasson à la technique.